driver of its economy.
D'entre faiseurs, on parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Vous êtes sur Graphite 94.9, bonjour et bienvenue dans les échos de l'innovation, une émission de science et de société. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la communication dans la sphère scientifique. Comment les scientifiques se mobilisent-ils pour interagir efficacement avec le public, notamment en période de crise ? Alors pour les fidèles de l'émission, il y aura une suite à cet épisode portant sur la parole dans le monde scientifique, mais abordant plus précisément la question de la vulgarisation. Nous ici aujourd'hui, nous parlerons plutôt de la manière dont les informations sont divulguées par les scientifiques au public, plus que du fond, du contenu de ces informations. Alors pour vous guider dans cette réflexion, cet argumentaire, je ne suis pas tout seul. À mes côtés, mes collègues, mes compères, mes comparses de toujours, que je ne présente plus, mais que je vais quand même présenter, sinon cette phrase n'aurait servi à rien. Chung, tu vas bien ?
Oui, ça suffit.
Alors je suis très content parce que je le dis, je tease un peu l'émission, mais Chung m'a dit qu'il était venu avec un quiz. Et on en raffole des quiz de Chung dans cette émission. Donc voilà, je pense qu'il considère qu'on est définitivement des incultes et il vient relever le niveau. Et ben, bonne chance à lui. Mais nous ne sommes pas que deux aujourd'hui, un duo de choc, qui est là pour nous épauler, pour vous expliquer et vous décortiquer le cœur de notre problématique avec leur merveilleuse chronique. J'ai nommé Mathilde et Agathe. Applaudissements, s'il vous plaît.
Merci, bonjour.
Une ovation, pourquoi ? Parce que je crois, attendez, entendre quelque chose.
Oh !
Et oui, un joyeux anniversaire. Une santé de fer pour Agathe, qui vient de fêter ses 18 ans il y a 4 jours. 4 jours de retard, mais 18 ans quand même, ça se fête, à la radio surtout. Donc, joyeux anniversaire. Alors, dans cette très bonne ambiance, hein, je pense qu'on est tous, bien là, vous êtes tous prêts. Nous allons pouvoir commencer. Pour vous expliquer, chers auditeurs, le principe et le déroulement de cette émission, nous allons tenter de vous livrer un débat portant, vous l'aurez sans doute compris, sur la parole scientifique et les moyens utilisés pour se faire entendre, notamment en temps de crise. Plusieurs prises de parole vont avoir lieu pour vous éclairer, vous les auditeurs, sur les thèmes abordés, puis nous tenterons de débattre à une question liée à notre thème du jour, le discours scientifique, un outil pour éclairer ou pour influencer. Alors, lorsque des crises surviennent, qu'elles soient sanitaires, climatiques ou technologiques, la diffusion rapide et précise de l'information devient très vite vitale. Et un des plus gros exemples de crise récente, qui parlera à tout le monde, j'en suis sûr, c'est le Covid-19.
En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Une épidémie qui inquiète, d'autant plus que le nouvel an chinois approche. Le virus pourrait se propager à l'étranger.
C'était un des premiers reportages de télévision qui évoquait l'existence du Covid-19 en Chine et on voit bien que l'information n'attend pas. Il y avait que, entre guillemets, 45 malades en Chine et ça passe déjà sur BFM TV. Donc cela montre bien la diffusion à l'international de l'information de nos jours, plus vite et tout le temps. Partout, l'information en continu n'arrête pas. Et lors de crises aussi importantes que celle du Covid-19, les scientifiques doivent donc relever un grand défi, celui d'expliquer au mieux ce qu'il se passe, ce qu'il va se passer, en évitant de désinformer et de semer par là même un vent de panique générale. Alors, pour mieux comprendre les méthodes employées par les scientifiques, je vais laisser la parole, à notre fraîchement majeure Agathe.
Alors oui, effectivement, comme tu l'as dit, lors de l'arrivée d'une crise, il y a toujours un vent de panique, mais il est intéressant de comprendre comment fonctionne la prise de parole scientifique dans son ensemble, dans un premier temps. Il faut d'abord savoir que la communication autour des travaux des laboratoires se fait à plusieurs niveaux et par différentes fonctions au regard des enjeux qui doivent être relevés et de l'auditoire à convaincre ou à informer. Les scientifiques et les chercheurs ne sont pas les seuls à communiquer autour de leurs travaux, de leurs recherches. Un laboratoire, c'est la plupart du temps une entreprise privée, ou alors parfois publique également, qui pour pouvoir financer ses travaux et ses projets, se doit de convaincre des décideurs politiques, mais également des banquiers. Cela renvoie à une transformation des rapports entre science et société, qui sont depuis plusieurs décennies influencés par des logiques économiques. Pour assurer ce rôle de relais, les laboratoires s'appuient sur des acteurs clés comme les communicants, les financiers et les responsables organisationnels qui, de par leurs connaissances propres, sont plus à même de convaincre, de transmettre et de valoriser les connaissances vers des publics variés. Le grand public, des acteurs professionnels ou même des décideurs politiques. Avant, les chercheurs publiaient dans des revues spécialisées pour des publics experts. Mais aujourd'hui, les temps ont changé et avec la manière de communiquer sur le fond et sur la forme, on remarque que ça a énormément évolué. Les chercheurs participent à des interviews, donnent des conférences, produisent des documentaires ou organisent même des expositions. Certains d'entre eux sont connus mondialement, comme Stephen Hawking, par exemple. Pour illustrer notre propos, on peut par exemple citer ces trois types de communication scientifique. La vulgarisation pour le grand public, donc c'est-à-dire traduire des savoirs complexes en messages clairs, qui vous sera donc expliqué plus tard dans la prochaine émission. La restitution pour des publics ciblés, par exemple un archéologue partageant ses découvertes avec une communauté locale. Et enfin, le conseil pour des décideurs, c'est-à-dire fournir une expertise pour guider des politiques publiques dans des domaines comme la santé ou l'environnement. En effet, communiquer la science n'est pas sans défi. Il faut rendre les savoirs accessibles sans les dénaturer et donc les adapter. Dans le cas bien spécifique des gestions de crise, que ce soit sanitaire, climatique ou biologique, l'urgence de ces situations change les pratiques en termes de communication et rend bien souvent la communication primordiale pour expliquer les phénomènes, les risques et bien souvent pour rassurer le grand public par la posture d'expert. Si on s'appuie sur les crises récentes, les grands marqueurs en termes de communication peuvent se résumer à, premièrement, une simplification de la diffusion de l'information. Par exemple, les règles de communication, on les voit qu'elles s'assouplissent. Les politiques éditoriales sont assouplies pour permettre une diffusion rapide des résultats. On remarque également que les plateformes de prépublication permettent le partage immédiat de données, favorisant des échanges rapides entre chercheurs. De plus, les éditeurs de revues scientifiques assouplissent leurs règles. Des résultats préliminaires sont publiés rapidement et certains éditeurs suppriment les frais de publication pour rendre les articles immédiatement disponibles. C'est notamment le cas avec l'urgence climatique et les événements extrêmes comme les incendies de forêt ou les inondations qui nécessitent des réponses scientifiques rapides pour informer les politiques publiques. Pendant les incendies en Australie en 2019 et 2020, notamment, des études sur les impacts écologiques et économiques des feux ont été publiées rapidement pour aider à gérer les crises à court terme, mais également pour expliquer les raisons de ces phénomènes dus notamment donc au changement climatique. Voici un extrait pour illustrer donc mon propos de France 24, intitulé « En Australie, les incendies ont ravagé une partie de l'écosystème », où nous pouvons entendre l'ingénieur humanitaire et environnemental Petr Matos, qui nous parle justement du problème écologique et des incendies provoqués par les incendies en Australie.
De débat, il n'y en a pourtant pas au sein de la communauté scientifique. Ils disent très clairement que le changement climatique favorise l'émergence de catastrophes naturelles, mais aussi que le pire reste à venir.
Certains se demandent si ces feux sont désormais la norme. Malheureusement, il ne s'agit là probablement que d'une étape vers une norme différente qui sera pire encore que ce que nous vivons actuellement.
Mais ce n'est pas tout, puisqu'une multiplication des prises de parole des chercheurs prend également forme lors des crises. Les chercheurs intensifient leurs efforts pour informer directement le public via les médias, rendant les connaissances accessibles en temps réel. Ces crises s'appuient aussi sur une publication plus transparente des travaux et des informations pour faciliter notamment les avancées de la communauté scientifique et même globale et générale. Par exemple, dès le début de la pandémie de Covid-19, la communauté scientifique mondiale s'est mobilisée de manière exceptionnelle. Cette mobilisation touchant toutes les disciplines, de la biologie aux sciences humaines et sociales, a permis des avancées inédites en matière de recherche et de partage des connaissances. Toutefois, elle a aussi révélé des défis importants en termes de coordination et de rigueur scientifique. Pour la première fois à une telle échelle, les données sur le Covid-19 ont été rendues librement accessibles dès son identification. Des plateformes comme GSAID et PubMed Central ont permis de diffuser rapidement des résultats et des articles, facilitant une collaboration mondiale. Il faut également savoir que le séquençage du génome du virus, partagé dès janvier 2020, a accéléré le développement de traitements et vaccins. On réduit bien souvent la science aux sciences exactes, mais on oublie bien souvent également d'autres sciences, comme les sciences humaines et sociales, qui jouent également un rôle important et un rôle clé. Des revues ont publié des analyses sur des sujets variables, donc des revues humaines et sociales, sur les sciences humaines et sociales. Par exemple, pendant le Covid, on a pu retrouver des revues sur le droit de travail en temps de crise, mais aussi sur les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Finalement, la communication scientifique est bien plus qu'un travail d'expert vers des experts. C'est un enjeu majeur pour accélérer le développement de la recherche et créer un lien de confiance entre la société et la science. La science est omniprésente aujourd'hui. Il est donc nécessaire d'en parler. Grâce à l'expérience des crises passées, aujourd'hui, des recommandations sont émises pour améliorer la communication scientifique et permettre une meilleure interaction avec le public lors de futures crises, assurant ainsi que la science reste un outil clé pour l'action collective.
Eh bien, merci Agathe. On peut donc que se réjouir au vu d'une véritable amélioration dans ce domaine. Maintenant, il est l'heure de passer au tant attendu quiz. Chang, tu es prêt à nous questionner ?
Oui, bien sûr. Et je vais commencer avec toi, Joseph, pour ma première question. Il faut répondre par vrai ou faux. Les scientifiques doivent toujours communiquer les résultats sans intermédiaire, comme les gouvernements ou les médias. C'est vrai ou faux?
Je dirais faux. Il doit forcément y avoir des clauses de confidentialité ou des vérifications, je pense, pour toutes les informations qui vont être divulguées.
Oui, effectivement, la réponse est fausse. La communication scientifique efficace nécessite souvent des intermédiaires pour relayer les informations de manière compréhensible et accessible au grand public. Et maintenant, une question pour toi, Agathe. La désinformation peut avoir des conséquences graves en période de crise, c'est vrai ou faux?
Alors, de mon avis, oui, je pense que c'est vrai. Ça me semble évident avec tout ce qu'on a pu voir et observer, notamment pendant le Covid quand même.
Oui, c'est vrai. La désinformation peut entraîner des comportements à risque, une méfiance envers les autres. Autorités et des décisions basées sur des données erronées, ce qui peut aggraver la crise. Et maintenant, la dernière question pour Mathilde. Les campagnes de communication scientifique doivent être transparentes et basées sur des données probantes pour être efficaces.
Ouais, je crois que même si les scientifiques ne peuvent pas être transparents sur tout, les États ils jouent un rôle aussi super important dans les informations divulguées au public, donc je dirais que c'est vrai.
Et bien, tu as raison. La transparence et l'utilisation de données fiables renforcent la crédibilité des messages scientifiques et aident à établir la confiance avec le public.
Eh bien, très bien, merci Chang, merci pour ce petit quiz. Alors, comme tu l'as évoqué dans ta réponse, Mathilde, les États jouent un rôle très important en tant qu'intermédiaire d'information entre les scientifiques et le public.
Oui, effectivement, et surtout en temps de crise, comme celle que tu as évoquée en introduction. Quand une crise éclate, l'État il doit souvent jouer le rôle de médiateur entre les scientifiques et le grand public. Et ça, c'est un rôle super important parce que les décisions prises, elles doivent s'appuyer sur des connaissances scientifiques, mais elles doivent aussi être compréhensibles et acceptées par tout le monde pour justement être le plus efficace possible. Et donc, les scientifiques, ils sont là pour analyser et donner des conseils. Mais ils parlent souvent avec des langages compliqués qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour le public. Et donc l'État, lui, son rôle, en fait, c'est de traduire de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. Par exemple, pendant la crise du Covid, il y a des scientifiques qui ont parlé de concepts comme le taux de reproduction du virus ou l'immunité collective. Et l'État, en fait, il a retranscrit ça de façon hyper simple à la population. Donc ils ont dit, portez des masques, restez à distance, faites-vous vacciner, tout ce genre de choses que n'importe quel être humain peut comprendre. Et Mais justement, après avoir simplifié ce genre de concept, bah, l'État, il a le rôle de... Justement, c'est le moment de passer à l'action, maintenant qu'on a prévenu la population. Et c'est là que ça se complique encore un peu plus pour l'État. Parce qu'une fois que les scientifiques, ils ont donné leurs recommandations, l'État, il doit agir en fonction de ses conseils. Et par exemple, si les experts disent qu'on doit faire un confinement, et ben, c'est à l'État de prendre la décision. Donc, où, quand et comment. Et c'est justement ce qu'a fait Macron pendant le Covid-19.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
Donc ça, c'est un replay qui a été diffusé sur France 24. Et moi, j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, justement, cette question. Enfin, quand vous l'avez regardé à la télé, comment est-ce que vous avez vécu le fait que, bah, du coup, l'école, c'est fini. Et bah, fini pour un moment...
Mais, du coup, je pense que toi, tu l'as vraiment vécu dans le sens « l'école est finie », je crois. mais je pense moi aussi, parce que on était jeunes. Moi, j'étais en troisième, personnellement. Et donc, tout ce qu'on avait envie, c'était de rester chez nous. Mais il y avait quand même un sentiment d'être dans le brouillard, de ne pas savoir ce qui se passe. Moi, je me rappelle, je regardais des cartes qui simulaient le développement avec mon père. On était devant l'ordi le soir, qui simulaient le développement. Et on voyait l'Italie qui avait genre 100 malades. Et on disait, c'est fini, c'est terminé et tout machin. Wow. Et en fait, on n'avait pas tellement tort parce que c'est vraiment arrivé très vite. Mmh. Mais je crois que Agathe, t'as un autre sentiment parce que t'étais pas en France, toi.
Oui, non, effectivement, moi j'étais en Italie, donc quand c'est arrivé à Milan, donc en plus pas très loin de là où on a recensé le premier cas de Covid, donc à Bergame, si je me trompe pas. Oui, au début, ça fait peur parce qu'on se dit, enfin, on sait pas trop. Enfin, on ne connaît pas vraiment le virus. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Et puis, en Italie, ça a été très, très direct tout de suite. Donc, on s'est tout de suite retrouvés enfermés. Personne n'avait le droit de sortir. Il n'y avait pas d'autorisation de sortir. C'était tout le monde fermé. Moi, pendant plus de 5 mois, je suis restée chez moi. Genre, s'il n'y avait pas possibilité, c'était pas de possibilité. Et on voyait les grands-parents sortir avec leurs petits chiens, pouvoir promener. Et puis, nous, on était bloqués. Mais franchement, on l'a fait et puis ça reste un moment passé qui restera dans ma mémoire et dans nos mémoires, je pense, globalement.
Ouais. Et toi, Chang, t'as un avis sur la question ?
Oui, ça c'est... pendant l'épidémie de Covid-19, j'ai passé la plupart de mon temps à l'intérieur. Ma maison et limiter mon temps à sortir. C'est ça.
Ouais, comme tout le monde, en fait, je pense.
Moi, je l'ai grave vécu en mode... J'étais trop contente parce qu'en fait, j'étais en première et donc j'allais passer le bac de français, je crois, 3 semaines plus tard. Et j'avais pas trop commencé à réviser. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut absolument qu'on se confine ou un truc du genre. Et ah là, non, j'étais tellement contente. Je me suis dit,
t'étais okay, de la génération de ma sœur qui ont eu le bac...
gratos.
Comme ça.
Tenez.
Mais pour revenir à la parole scientifique, c'est vrai que moi, je ressentais un peu le besoin de savoir ce qui se passe réellement, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient, qui disaient beaucoup de choses, mais on ne savait pas vraiment si c'était vrai. On va y revenir après. Mais je pense que le premier discours du président, d'Emmanuel Macron, il a quand même été... Enfin, au moins, on savait à quoi s'attendre. Et ça a remis un peu les pendules à l'heure. Donc, je pense qu'en situation de crise, en plus, c'est le genre de choses que l'État est obligé de faire. C'est informer la population pour un peu calmer les gens. Parce que certains peuvent être contents, comme nous. Mais d'autres, bah, ça fait qu'ils arrêtent de travailler. Ça les met dans des complications que les gens ne veulent pas. Tu reprends du coup.
Ouais, c'est ça. Donc justement, ce genre d'action de l'État, bah, il n'y a pas de coordination avec les scientifiques. En fait, les scientifiques, ils disent, bon, bah, là, on est dans cette période-là, il faudrait se confiner. Et puis bah, après, l'État, il fait un peu ce qu'il veut. Et donc, ça a été pareil pour le climat. Il y a les scientifiques qui ont dit qu'il fallait réduire les émissions de CO2. Et puis bah, après, c'est l'État qui décide d'imposer des lois pour y parvenir. Bon, pour le moment, c'est très long, mais... Pour l'instant, en fait, on taxe seulement les émissions de carbone et on interdit certaines voitures polluantes. Mais c'est tout, quoi. Pour l'instant, en fait, il n'y a pas tellement de... Enfin, c'est une urgence, mais on ne le ressent pas plus que ça, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, ça ne bouge pas beaucoup plus. Et donc, Maintenant que l'État il a agi, bah, nous, on doit faire confiance. Donc, pour que tout le monde suive les mesures, bah, l'État il doit gagner la confiance du public. Et si les gens n'ont pas confiance en ce que l'État dit, bah, ils ne suivront pas les conseils et ça devient un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il est important que les experts, donc les scientifiques, ils soient visibles et ils expliquent clairement leurs conclusions à la population. Donc, par exemple, pendant la pandémie, on a vu beaucoup de médecins et de chercheurs parler à la télévision pour expliquer pourquoi certaines décisions étaient prises. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on gagne la confiance et que les choses bougent et que bah, on fait comprendre à la population ce qui se passe. Donc, forcément, on comprend et puis on agit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension entre le public et les scientifiques. Parce que, en fait, les scientifiques, ils recommandent des choses aux gens, ce qu'on n'accepte pas forcément. Par exemple, il y a des scientifiques. Les scientifiques ils peuvent dire qu'il faut des confinements stricts pour stopper une épidémie, mais la population elle peut être fatiguée. Il y a certains secteurs de l'économie qui ont beaucoup souffert, comme l'a dit Joseph. Et donc, l'État, il doit trouver un compromis et faire en sorte que les gens comprennent pourquoi ces décisions sont nécessaires, tout en prenant compte bah, des réalités sociales et économiques. Et donc, pour éviter ce genre de cas, bah, l'État, il doit aussi... il agit, mais il doit aussi anticiper. Par exemple, avant même le Covid, avant le Covid-19, il y a certains pays qui avaient déjà financé des recherches sur le coronavirus, et ce qui a permis de créer des vaccins plus rapides. De la même manière, pour le changement climatique, il y a l'État qui investit dans des technologies pour mieux gérer l'avenir, comme les énergies renouvelables. Donc, en résumé, en période de crise, l'État, c'est un peu le pont entre la science et la société. Il prend ce que les scientifiques disent, il le rend compréhensible et il met en place des actions concrètes pour protéger la population. Mais bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que l'État soit transparent, qu'il explique clairement ce qui se passe et qu'il veille toujours à équilibrer les décisions scientifiques avec les besoins de la société.
Eh bien, merci, j'aurais pas dit mieux, Mathilde. Alors, depuis le début de l'émission, nous évoquons les scientifiques, les États, mais il existe d'autres acteurs importants dans la transmission d'informations au public. La musique, par exemple, peut être un excellent biais informatif, pour atteindre plus facilement et plus profondément une société. Alors, pour vous expliquer ce phénomène, quoi de mieux que d'analyser quelques exemples de musique de la pop culture qui ont su transmettre des messages scientifiques ou tenter d'expliquer ce rapport de force qui peut avoir lieu et qui peut parfois modifier l'information et le regard des gens sur des crises ou des événements majeurs. C'est donc le moment de passer à notre rubrique musicale. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on s'intéresse à un genre musical bien précis qui évoque tout de suite chez les gens, enfin pour ma part, une atmosphère scientifique dans la forme. Je parle bien sûr de la musique électronique. Alors je ne sais pas pour vous, mais dès que j'entends de l'électro ou ses dérivés comme de la techno, même si j'en écoute un peu moins, je suis directement placé dans un mood futuriste et scientifique, entre guillemets. Et quel meilleur exemple pour parler de musique électro que d'évoquer les précurseurs, les pionniers de ce genre, le groupe allemand Kraftwerk. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, c'est en fait les premiers dans l'électro, tout simplement. Ils arrivent sur les ondes dès le début des années 70, alors que la Frentouch n'arrive que 20 ans plus tard, ce qu'on considère nous comme notre électro à nous, qui nous est cher à notre cœur de français. Il est venu que 20 ans après les Allemands en fait. Mais je pense que le meilleur moyen de comprendre et de connaître ce groupe, c'est de l'écouter. Alors tout de suite un morceau de Kraftwerk sorti en 1975, un extrait de Radioactivity. C'était un extrait de Radioactivity de Kraftwerk. Alors on a pu entendre Radioactivity is in the air for you and me, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça évoque Ça évoque les dangers en fait, de la radioactivité à l'époque, qui était un sujet qui commençait à prendre beaucoup de place dans la société. Et surtout, ça évoque les dangers de son utilisation de plus en plus massive dans la société. Mais ce ne sont pas les seuls à adopter un regard futuriste sur les énergies du futur. Un deuxième morceau dont je veux vous parler, c'est Electricity pardon, de Orchestra Manoeuvre in the Dark. Qui est sorti plus de 10 ans après Radioactivity, en 1988, évoquant l'électricité comme l'énergie qui sauverait le monde. Tout de suite, un extrait. Alors, dans cet extrait de la fin de la musique, on peut entendre « The final source of energy, solar electricity ». Ils ont donc un regard plutôt futuriste pour l'époque, car l'électricité est maintenant une des solutions les plus prometteuses comme énergie verte. Et donc, voilà, il y a ce message qu'ils ont fait passer 40 ans avant l'utilisation maintenant massive de l'électricité dans les voitures électriques, par exemple, ou plutôt 30 ans, désolé, j'ai mal fait mes calculs, dans l'utilisation de l'électricité dans les panneaux solaires et dans les voitures électriques. Alors, enfin, pour revenir à la musique électronique, on rentre en France, cette fois-ci, plus de 20 ans après Kraftwerk, avec le titre mondialement connu « Harder, Better, Faster, Stronger » de Daft Punk, qui est sorti en 1998 sur le premier album du duo. Alors ce titre, il a fait le tour du monde, il a été réemployé comme sample dans de nombreuses musiques anglophones, entre autres le titre « Stronger » figurant sur l'album « Graduation » de Kanye West, sorti en 2007. Et ce titre, eh bien, il va apporter un regard assez intéressant sur la recherche scientifique et ses limites. On écoute tout de suite un extrait. Voilà, on entend bien « Working harder, make it better, do it faster, makes us stronger ». Cela évoque le fait de travailler toujours plus vite, plus longtemps, pour aller toujours plus loin, ce qui nous rendrait plus forts. Et ce message, bien qu'il soit tourné en faveur des recherches scientifiques, dans le sens où elles sont bénéfiques et où elles nous servent dans la société, eh ben, il peut quand même apeurer la société et augmenter un sentiment d'insécurité qui est déjà très présent dans la société d'aujourd'hui. Alors j'aurais pu vous parler d'autres artistes qui ont ouvert quelque peu les esprits du public sur le monde scientifique, mais j'en viens malheureusement à la fin de cette rubrique musicale. Il est maintenant temps de passer au débat. Vous êtes toujours avec nous sur Graphite 94.9 dans les échos de l'innovation et nous allons maintenant passer au débat. La problématique étant, je le rappelle pour nos auditeurs, le discours scientifique, un outil pour éclairer ou pour influencer. Alors c'est un débat libre que nous allons essayer de mener dans le respect de nos auditeurs, donc en respectant la prise de parole de chacun. Chacun peut parler quand il veut, mais on est ensemble, on se connaît, on pique pas la parole aux autres, quoi. Alors, si personne ne veut commencer, j'aimerais bien débuter avec un premier argument qui va porter sur la rigueur de la méthode scientifique. Alors, moi, je pense que les discours scientifiques sont par essence basés sur des faits scientifiques vérifiés et réfléchis. Il n'y a pas de discours scientifique sans l'application d'une méthode méticuleuse et d'une grande rigueur. Donc, les scientifiques, qu'ils soient ingénieurs ou rats de laboratoire, sont soumis par des formations professionnelles à dire la vérité et à donner vraiment des exemples concrets. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Les scientifiques ne viennent pas de nulle part, ils ont été ingénieurs, ils sortent d'école, et donc ils savent ce qu'ils font, et pour moi il faut faire confiance, et le scientifique est là vraiment pour éclairer et très rarement pour influencer. Ceux qui influencent, en fait, pour moi, ne sont pas scientifiques.
C'est vrai que la science, elle se base sur des faits vérifiés et une méthode rigoureuse, mais il faut aussi accepter que la science, elle n'est pas complètement certaine. Même avec les meilleures méthodes, il y a toujours une part d'incertitude. Et ça, justement, ça fait partie de la science, l'incertitude. Donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, de la théorie de la Terre plate. Donc, pendant des siècles, on pensait que la Terre, elle était plate, car ça semblait évident pour beaucoup. Mais c'est après des observations scientifiques et des découvertes comme les voyages de Magellan ou les photos de la Terre depuis l'espace qui ont pu prouver que la Terre était ronde. Et aujourd'hui, on pourrait penser que c'est une vérité absolue, mais si la science avait été inflexible et convaincue de sa certitude, à l'époque, on n'aurait jamais remis cette idée en question. Et justement, les scientifiques, même s'ils sont très rigoureux, ils peuvent se tromper, comme tout le monde, ils peuvent se tromper, ou avoir des résultats qui évoluent au fil du temps, comme justement cet exemple montre. Et ça, ça fait partie du processus de la science, remettre en question, tester et ajuster. Donc dire que la science est une vérité absolue, ça a un peu simplifié les choses. La science, elle progresse par essai et erreur, et c'est ce qui la rend aussi fiable. Mais elle ne peut jamais offrir une certitude absolue.
Oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Mais je pense que les discours scientifiques en période de crise ont justement pour but de fournir des réponses claires et fiables et non de souligner une certitude qui pourrait semer le doute. Certes, la science, elle évolue, mais cela ne signifie pas que les discours scientifiques sont toujours incertains ou également sujets à révision. La science en général a comme rôle de rassurer parce qu'elle est exacte, mais également parce qu'elle contient des preuves. Les discours scientifiques, de ce fait, ils apportent un sentiment de sécurité en période de crise. Grâce à leur fiabilité et également leur rationalité, ils aident à réduire l'incertitude et la peur vis-à-vis de ce que nous ne connaissons pas. Ils permettent de mettre en lumière des solutions concrètes et des recommandations fondées sur des données expliquées par la science. Si par exemple, je prends la pandémie de Covid-19, lors de ces crises sanitaires, donc la pandémie du Covid, les discours scientifiques ont fourni des réponses claires et des outils comme par exemple les vaccins ou les traitements pour rassurer les populations, oui, et guider les décisions. Nous étions rassurés de savoir qu'il existait un moyen de nous en sortir et que tout n'était pas perdu d'avance. Avoir la chance de pouvoir connaître les résultats scientifiques et les progrès en général nous permettent de nous rassurer sur ce qui peut au premier abord nous paniquer en fait.
Ouais, je comprends ton point de vue, mais aussi il faut reconnaître que les discours scientifiques, bien qu'ils puissent être perçus comme des outils rassurants en période de crise, ils peuvent parfois être aussi utilisés de manière manipulatrice. Hein. Et il faut aussi admettre qu'il y a certaines informations scientifiques qui peuvent être présentées de manière alarmiste ou sélective. Donc l'objectif, il n'est pas toujours uniquement de rassurer, mais parfois d'influencer le comportement ou de justifier des mesures qui autrement seraient plus difficiles à accepter. Donc on peut prendre l'exemple qu'on prend depuis tout à l'heure, donc la gestion de la pandémie du Covid-19. Pardon. Certes, donc les discours scientifiques, ils ont permis de nous informer et d'offrir des solutions comme les vaccins, Mais cependant, il y a certains messages qui ont été amplifiés pour susciter un sentiment d'urgence. Parfois, on exagère les risques pour obtenir une réaction rapide du public. Et dans ce contexte, il y a certaines données qui ont été mises en avant sans toujours préciser les nuances ou les incertitudes, ce qui a pu engendrer des peurs excessives. Et donc, le danger de cette approche est que bien qu'elle puisse accélérer une action nécessaire, elle peut aussi conduire à une manipulation de l'opinion publique en orientant les croyances vers un seul angle, parfois au détriment d'une information plus complète. Donc la science, ce n'est pas vraiment une vérité absolue. Elle peut être utilisée pour convaincre, influencer ou faire pression sur l'opinion publique, surtout dans des périodes où les émotions, elles sont exacerbées justement en période de crise, par exemple.
Oui, mais pour moi, les résultats scientifiques, quand on regarde généralement, ils sont systématiquement soumis à un examen critique par des pairs, ce qui garantit que les données sont solides avant d'être communiquées au public. La recherche, elle est souvent collaborative et elle implique aussi des équipes internationales, ce qui limite évidemment les intérêts personnels ou l'influence des scientifiques sur le public. De plus, l'objectif principal de la science, c'est de contribuer à l'intérêt général et de proposer des solutions durables pour améliorer les conditions de vie. Les scientifiques, ils ne cherchent pas à manipuler ou à orienter les croissances, enfin en tout cas, je ne le pense pas, mais plutôt à informer de manière éclairée. Lorsqu'ils alertent sur des situations urgentes, comme une pandémie ou le changement climatique, de mon point de vue, c'est surtout et avant tout pour mobiliser l'action en se basant sur des faits mesurables et vérifiés, et non pour exacerber inutilement leurs émotions, et surtout les émotions. En ce sens, la science, elle reste un outil au service de tous qui vise à guider les décisions avec rationalité et transparence. Et elle a surtout comme rôle, en fait, d'instruire et de servir à tous.
Oui, effectivement, il est vrai que l'objectif principal de la science et d'informer et de contribuer au bien commun, mais cela ne signifie pas que les discours scientifiques sont totalement exempts d'influence ou de biais. Les chercheurs, comme tous les êtres humains, évoluent dans un environnement compétitif où les pressions pour obtenir des financements publiés dans des revues prestigieux ou gagner en reconnaissance peuvent les pousser à mettre en avant certains résultats ou à simplifier des conclusions. Et ces dynamiques ne remettent pas en cause la valeur de la science en tant que de marque, mais elles soulignent que les discours qui ont des coûts ne sont pas toujours totalement neutres. Et cela soulève des questions sur la crédibilité du discours scientifique, en particulier lorsque les résultats sont utilisés pour influencer les politiques publiques ou le comportement individuel.
Ok, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. C'était un débat très intéressant. J'espère pour vous aussi qui nous écoutez. Beaucoup d'arguments ont été avancés, mais il nous reste à évoquer la perception des discours scientifiques par le public. Chung va nous en parler, mais avant ça, j'aimerais, en guise d'exemple, analyser deux audios, extraits d'interviews du docteur Raoult sur BFM TV.
Je vous le dis, moi, dans cette situation, moi, mon devoir à moi, c'est de soigner les gens. Dès le moment, au bout d'un moment, que les gens soient aveugles, ne lisent pas, c'est pas mon problème. Les Chinois, nous, on a testé le virus in vitro. Les Chinois ont rapporté, depuis, ils ont rapporté dans Lancet aussi, l'efficacité de l'hydroxychloroquine en disant que ça marchait. Nous, on a fait...
Au début, mais après, il y a eu d'autres études chinoises qui ont montré que ça avait peut-être des effets non bénéficiaires ou peut-être toxiques. Les premières, oui, mais pas les dernières.
Non, écoutez...
Alors, cet extrait nous ramène vraiment à cette époque de Covid, hein, où toute la population nageait dans une sorte de brouillard vraiment de l'information entre certains spécialistes qui intervenaient publiquement par le biais d'intermédiaires, tels que l'État ou d'autres institutions publiques, et d'autres qui semblaient vraiment moins crédibles. C'est le cas pour moi, hein, je parle en mon avis personnel, mais pour moi c'est vraiment le cas du docteur Raoult que l'on vient d'entendre. Dans cet extrait, le docteur parle beaucoup de lui et de ce qu'il a fait lui en s'incluant dans des recherches scientifiques dont on ne sait pas s'il fait vraiment partie. On peut assister à vraiment un manque de professionnalisme dans l'éloquence et la journaliste le lui fait remarquer très vite. Je vais maintenant lancer le deuxième extrait qu'on va décortiquer aussi ensemble.
C'est extraordinaire, hein, le BMJ a tripoté deux études pour enlever les résultats qui montraient. Alors c'est très intéressant parce que quand vous regardez ça, vous avez la moitié des études qui sont d'un côté, qui sont les études qui sont... Il y a quatre études randomisées, trois qui disent que la chloroquine marche mieux que le placebo et une qui dit que le placebo marche de manière équivalente à la chloroquine. Il y a cinq études observationnelles faites par des médecins qui rapportent leur expérience, qui sont des études comparatives non randomisées, elles sont toutes en faveur de la chloroquine, et il y a trois méta-analyses qui sont faites par des gens qui n'ont vu aucun médecin, y compris d'autres qui sont des pieds nickelés, hein, qui montrent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et c'est exactement opposé. Donc,
Alors ici, on assiste à quelque chose de différent. La journaliste déjà va laisser parler le docteur Raoult tout le long. Il semble donc qu'il va analyser des études, il semble apporter des informations plus concrètes, il donne son avis sur la question, mais tout de même, il commet des fautes qui traduisent d'une mauvaise éloquence. En effet, Raoult est très vite agressif, surtout en fin, avec l'expression des pieds nickelés, ce qui décrédibilise tout ce qu'il dit en fait. C'est, dans ces deux extraits, ça nous montre bien le danger que peut apporter ce genre d'intervention faite par des personnalités que je qualifie d'ambigu, surtout en temps de crise. C'est pourquoi les interventions publiques doivent être pensées et encadrées, et qu'il est bien pour les scientifiques de disposer d'intermédiaires de communication et d'une sélection des informations à annoncer publiquement. Dans le cas contraire, ces passages publics peuvent augmenter le sentiment de stress global d'une société qui est très présent en temps de crise et qui peut devenir très vite néfaste. Mais Chang va justement nous en parler plus en profondeur.
Oui, effectivement, chers auditeurs, pour terminer la séance radio aujourd'hui, je souhaite vous présenter une partie tout aussi importante, la perception des discours scientifiques par le public. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que le niveau d'éducation et de culture scientifique du public joue un rôle déterminant dans la perception des discours scientifiques. Et dans de nombreux cas, le jargon scientifique et les concepts complexes peuvent sembler inaccessibles, ce qui crée une barrière entre les scientifiques et le grand public. Cette distance peut engendrer une méfiance envers les discours scientifiques perçus comme élitistes ou déconnectés des réalités quotidiennes. Et par conséquent, la vulgarisation scientifique devient un impératif pour rendre ces discours plus accessibles et compréhensibles. Les scientifiques, les communicants et les médias ont la responsabilité de traduire les résultats de la recherche en un langage clair et engageant afin de favoriser une meilleure compréhension. Et un autre facteur qui influence la perception des discours scientifiques est le contexte socio-culturel. Les croyances, les valeurs et les expériences personnelles des individus façonnent leur manière de recevoir et d'interpréter les informations scientifiques. Par exemple, des études sont montrées que les opinions sur les vaccins, le changement climatique ou les OGM, organismes génétiquement modifiés, sont souvent influencés par des croyances préexistantes plutôt que par des données scientifiques objectives. Et cette dynamique souligne l'importance de la communication scientifique dans un cadre qui respecte et prend en compte les préoccupations et les émotions du public. Les scientifiques doivent non seulement fournir des données, mais aussi engager un dialogue avec le public pour établir une relation de confiance. La désinformation et la propagation de fausses informations constituent également des défis majeurs pour la perception des discours scientifiques. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, les informations erronées peuvent se répandre rapidement, souvent plus vite que les informations vérifiées. Et cette situation crée un environnement où le public peut avoir du mal à distinguer les vrais du faux, alimentant ainsi que le scepticisme envers la science. Les discours scientifiques, même fondés sur des preuves solides, peut-être la mise en question par des théories du complot ou des interprétations biaisées, et ce qui nuit à leur crédibilité. Et pour contrer cette tendance, il est crucial que les scientifiques et les institutions scientifiques s'engagent activement dans la lutte contre la désinformation en fournissant des réponses claires et en s'exprimant sur les plateformes où le public se trouve.
Donc il reste encore du travail à faire dans cette voie-là. Eh bien merci Chang, tu viens ainsi clôturer notre émission. Juste avant de vous laisser, j'aimerais vous poser une dernière question ouverte. Alors en fait, je reprends l'idée de la question que nous avait posée Mathilde, mais elle va être vraiment centrée plus sur les démarches scientifiques qui ont été imposées pendant le Covid. Et donc je vais la reposer en entier. Quel a été votre ressenti par rapport à l'arrivée du Covid-19 en 2020? Avez-vous cru tout ce qui se disait de la part des gens qui passaient à la télé, des vrais scientifiques, des personnalités moins conventionnées mais tout aussi importantes dans l'utilisation des médias? Est-ce que vous étiez dans un état de stress ou plutôt confiant face au développement scientifique autour de ça, avec les vaccins par exemple?
Ben moi à ce niveau-là, au début j'avais pas trop d'avis, j'avoue, j'étais dans le confinement et tout, je m'amusais. Mais après
quand il y a tu n'étais que amusé en fait.
Ouais, c'est un peu ça.
Vraiment ta meilleure vie.
C'était sympa. Hein. Et donc quand il y a le vaccin qui est arrivé, moi je me suis dit pour l'instant ça me fait peur parce que bah justement les scientifiques ils ont eu un gros challenge, c'est de créer un vaccin pour un peu sauver toute cette crise. Et donc, c'était vraiment un truc hyper compliqué à faire, qui coûtait énormément d'argent, et ça a été fait super rapidement. Et donc, c'est pour ça que ça a créé un peu de l'inquiétude. Mais moi, pour le coup, je ne l'ai pas trop ressenti. J'avoue que je me suis fait vacciner rapidement.
Ouais, moi aussi.
Mes trois doses, tout
s'est
bien passé.
Mais j'étais plutôt confiant, en fait. Le vaccin ne m'a pas fait peur, mais... En fait, j'ai pas été influencé par certaines personnalités qui par exemple intervenaient à la télé, comme je pense Raoult l'a fait. Je suis pas du tout sûr là pour le coup, mais de un peu, il avait décrédibilisé le vaccin en disant que c'était pas du tout une très bonne option, qu'il fallait vraiment faire ce que lui disait. Donc ces personnes-là, je les ai cernées. Bon après, comme tout le monde, hein, je pense, ouais. Le docteur Raoult, c'est clairement une caricature du Covid-19. Mais du coup, moi, j'ai fait mes deux shoots de vaccin. et voilà, quoi. Oui, je me suis protégé parce que même après Covid, pendant 2 ans, on était encore tous dans ce mood-là. Il y a eu des retours un an après, je crois. On était obligés pour sortir. Pour avoir le pass vaccinal.
Ouais, c'est ça.
Mais non, moi j'ai été plutôt très confiant.
Ouais, moi ça m'a pas dérangé plus que ça.
Bah, moi personnellement, alors moi je me suis pas fait vacciner directement. Je sais plus exactement quand, mais à partir du moment où il fallait le faire et tout, je l'ai fait parce que, bah, en fait, quoi qu'il se passe, si tu voulais faire une petite action, tu voulais aller dans un endroit public, tu étais obligé d'être vacciné. Et puis en soi, avec ma famille, c'était pas... on n'était pas hyper, hyper confiants, mais c'était pas non plus quelque chose. On était là, non, vraiment pas le vaccin, c'est contre ce qu'on veut, c'est contre... Non, pas du tout. On l'a fait pour ce qu'il fallait le faire. Et puis, moi, en soi, au début, c'était pas... Je me disais pas, ouais, tout trop bien. Mais voilà, je l'ai fait pour le faire. Et en vrai, c'était bien, parce que, bah, au moins, j'ai pu retourner un peu à une vie normale. Grâce à ça, quoi, avec le pass Covid et tout, c'était bien pratique quand même.
Ouais, c'est ça. Mais pour recentrer sur le sujet, par exemple, tous les problèmes qu'il y avait eu entre les différents vaccins qui venaient de différents labos, comment vous l'avez... Est-ce que vous avez un vaccin sur lequel vous misiez tout parce que vous aviez été influencé peut-être par l'intervention d'un des scientifiques de ce labo, ou est-ce que vous avez fait vraiment... le vaccin qui passait, parce que voilà.
Ouais, mais je sais qu'à la télé, il y avait eu des justement des trucs comme ça où ils disaient bon, bah ce vaccin là il est efficace à tel pourcentage, tout ça. Et en fait, bah le premier qui ressortait c'était Pfizer, quoi. Et moi, c'est celui que j'ai fait. Mm-hmm. Et je sais pas, en vrai, j'ai pas vraiment choisi.
Mais après, il y a eu beaucoup de. Il y a eu toutes les histoires de labos qui ont été rachetés, parce que ça en fait c'était tellement énorme. Quand un labo était choisi comme étant celui qui va vendre le vaccin au monde entier, et bah du coup ça devient le labo qui va faire les plus gros bénéfices de ça en fait. Et donc il y avait des conflits, je me rappelle, entre des labos russes, des labos américains, enfin bref. Donc c'était très intéressant. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
Chang, est-ce que tu t'es fait vacciner toi ou pas?
Oui, c'est fait. Oui, effectivement, c'est fait le vaccin, mais peut-être c'est bien.
Bon, je pense qu'on a terminé sur cette question ouverte. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que l'émission vous aura plu et aura répondu à certaines de vos questions, ou vous aura à l'inverse remis en question. Pour nous, l'émission s'arrête là. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver la suite de notre émission, comme je disais au début, pour les fidèles qui nous écoutent. Un deuxième épisode va aborder à peu près le même thème, mais en parlant de vulgarisation scientifique et donc en abordant le fond de ce que vont dire les scientifiques et, je dirais... de vulgarisation, j'ai pas de meilleur mot en fait. Si vous voulez rester connecté et pour écouter l'épisode 2, mais en tout cas, Graphite est toujours là sur 94.9. C'est terminé pour nous. Salut tout le monde.
Salut.
Oui, salut. Bonne soirée ou bonne journée.